Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et oui, avec peut-être la fin de 6 mois de crise et confrontations violentes au Togo, effectivement, Jacques, avec le début aujourd'hui de négociations entre le pouvoir et l'opposition, négociations sous étroite surveillance régionale. Bonjour, Komi tout d'abord.
Bonjour, Monsieur Martinet.
Merci d'être avec nous, politologue Olam de Sciences Po Bordeaux, laboratoire des Afriques dans le monde, spécialiste du Togo et du Ghana, le Ghana voisin qui, justement, avec la Guinée, sont présents aujourd'hui comme facilitateurs. Hein. Ils avaient annoncé les premiers, d'ailleurs, la tenue de ce dialogue, et non pas les protagonistes togolais eux-mêmes, le président Faure Gnassingbé et la coalition d'opposition qui veut s'assurer que ce sera son dernier mandat légal, puisque pour l'instant, je le rappelle, la limitation constitutionnelle promue par le parti au pouvoir autoriserait au président depuis 2005 deux nouvelles candidatures en 2020 et 2025. C'est trop pour l'opposition après 50 ans de pouvoir familial, surtout dans le contexte d'alternance actuelle en Afrique. Le Togo est une inacceptable anomalie politique au sein de notre espace ouest africain et il convient d'y mettre fin, disait une déclaration de l'opposition au dernier sommet de la CDAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, à Abuja. La situation, on le voit, a fini par préoccuper les voisins et partenaires, hein, comme tout d'abord. Le Nigeria, d'ailleurs, avait montré son impatience. La crise, peut-être sous contrôle régional, on va le voir. En tout cas, quelle est la réalité de ce dialogue dans la mesure où on dit que c'est déjà, je crois, le 27e de ce genre quand même, non ?
Oui, certains disent 28e. Bon, enfin bref, ça veut dire que bon, sur la même crise, il y a plusieurs dialogues qui ont eu lieu et sans succès. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si ce dialogue est le dernier, le définitif, qui mettrait fin au règne de Gnassingbé. Ça, personnellement, je ne suis pas certain, parce que bon, le pouvoir est très très rusé et peut toujours prendre du poids de la bête plus tard, surtout si les négociations n'ont pas été bien menées.
Et est-ce qu'on a déjà une indication sur sa composition ? C'était un peu opaque. Est-ce que c'est inclusif ? Est-ce qu'on trouve, je ne sais pas, la société civile, le clergé, la plupart des représentants de l'opposition ? On sait que seulement 5 partis sur 14 ont été conviés, je crois.
Ben, écoutez, la composition des participants à ce dialogue, c'est un mystère parce que j'ai essayé de chercher, je n'ai rien trouvé, et ni sur les participants, ni sur l'ordre du jour. Bon, on peut imaginer pour ce qui concerne l'ordre du jour, pour ce qui concerne l'opposition, c'est le retour à la constitution de 92, tandis que pour le pouvoir, il n'en est pas question, c'est réforme constitutionnelle, ainsi et aller au référendum avec le résultat de ce dialogue. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde de part et d'autre.
Oui, c'est cette fameuse question de la rétroactivité, effectivement, de la limite des deux mandats. Est-ce qu'il faudra passer par un référendum ou pas ? On a vu les deux principaux ou deux des principaux partis d'opposition, le Parti National Panafricain et le Parti des Togolais, ces deux principaux partis qui ont quand même réclamé une alternance. Là-dessus, est-ce qu'on peut négocier avec de telles bases ?
Oui, vous savez, bon, je dirais dans ce dialogue, il y a plusieurs protagonistes, en fait. Il y a la rue, et donc la population, qui a des revendications, je dirais, maximalistes et peut-être même légitimes. Bon, maintenant, c'est de savoir jusqu'où, quand on se mettra autour de la table, jusqu'où on peut aller. Moi, je pense que pour l'opposition, c'est quand même ne pas prendre les revendications de la population, savoir le dégagisme, c'est-à-dire « Faure must go »,« Faure doit dégager ». Et je pense que c'est légitime, mais en même temps, ce n'est, je dirais, pas négociable au niveau réaliste. Je m'explique. Je pense que pour l'opposition, c'est de trouver un compromis avec le pouvoir. Et moi, ce compromis, personnellement, je le vois dans ce scénario, à savoir, Faure assume son mandat jusqu'à la fin, donc 2020, et ne se représente plus. Et je pense que, bon, Faure qui, lui, de son côté, dit, ben, écoutez, ce n'est pas pour moi négociable, mais je pense que lui aussi doit lâcher un peu du lest, et donc qu'on se retrouve pas de part et d'autre à l'extrême de la table, mais qu'on se retrouve au milieu de la table. Autrement dit, chacun doit faire un petit effort, et pour l'opposition, je pense que, bon, c'est demander à Faure de lui dire que, bon, c'est son dernier mandat, et que bon, en 2020, il ne se représente plus. Et je pense que bon, le Nigeria, qui a une position très très ferme là-dessus, que le Nigeria soit garant de ce dialogue, des résultats, et que bon, Fort ne se présente plus, quitte à dire même qu'on inscrive directement dans le papier qui sera négocié, que bon, le Nigeria est garant militairement de ce dialogue, c'est-à-dire que le Nigeria peut intervenir militairement si Fort ne respecte pas le compromis qui a été signé.
Alors voilà. Ça, ce serait vraiment intéressant, effectivement, à voir ce qui va sortir de cette journée, mais cette situation rappellerait un peu, disons, la situation qu'on avait avec la Gambie début 2017, où le Sénégal avait envisagé d'intervenir militairement, effectivement, pour stabiliser le pays.
Oui, le Sénégal est intervenu effectivement avec la couverture de la CEDEAO, mais c'est le Sénégal qui a fait le boulot. Bon, le Sénégal par rapport au Togo est géographiquement un peu éloigné, mais je pense que le Nigeria est beaucoup plus proche et ferait bien le travail que le Sénégal a fait en ce qui concerne la Gambie.
C'est pour ça que je disais des signes d'impatience en introduction. Il y a eu des propos assez fermes du président Bouhari. Qui disait que le temps des transitions pacifiques, ce temps-là était venu en Afrique de l'Ouest. Il y a eu aussi une mobilisation de Alpha Condé, je l'ai dit. Qu'est-ce que cette pression a valu ? Est-ce qu'il faut comprendre que, effectivement, ces négociations se tiennent parce que les pays frontaliers l'ont voulu ?
Oui, tout à fait. Bon, je dirais une chose, c'est que, bon, moi, personnellement, en ce qui concerne Alpha Condé, je pense qu'il joue un jeu trouble dans la mesure où lui-même est confronté et maltraite sa propre opposition dans son propre pays et est en train de filouter pour changer la constitution et faire un troisième mandat. Donc, je pense qu'il est vraiment mal placé, mais il est un allié potentiel de Faure. C'est pour ça que Faure est parti le voir le 10 octobre dernier pour dire, ben, écoutez, venez à mon secours parce que ben, on peut être allié là.
Et quels enseignements vous en tirez de ce qu'on pourrait appeler cette séquence pour la CEDEAO de la Gambie jusqu'au Togo? En passant, il y a eu l'élection libérienne avec la période de flottement entre les deux tours, où là encore, on a vu une intervention des pays limitrophes, Alpha Condé encore une fois, et puis il y avait aussi Faure Gnassingbé là pour le coup.
Oui, tout à fait. Bon, il faut pas oublier une chose, c'est que Faure Gnassingbé est actuellement le président de la CEDEAO, le président d'exercice de la CEDEAO. Donc, il joue un peu ce statut-là. Mais bon, mais n'empêche que, bon, dans la sous-région, le Togo est un élément anormal. Et c'est pour ça que, bon, tous les pays de la CEDEAO, je crois qu'ils sont 14 ou je sais plus là, et demandent à ce que, bon, le Togo se normalise et se mette au même diapason que les autres pays africains de la sous-région. Donc, Faure est confronté. Donc, la pression qu'il y a sur Faure est tout à fait compréhensible dans la mesure où on ne veut pas, dans l'espace CEDEAO, cette anormalité-là où la même famille règne pendant 50 ans, voire même plus, et que, bon, dire que ben, ça suffit maintenant.
Et alors, justement, pour bien comprendre et distinguer les positions, qu'est-ce qui a pu motiver ces différents pays de la CEDEAO? Est-ce que c'est une volonté de normalisation politique? Est-ce que c'est les craintes de débordement? Là, il y a eu quand même des réfugiés sur le Ghana voisin qui sont partis du nord du Togo, plusieurs centaines. Qu'est-ce qui a motivé cette CEDEAO?
Oui, et je pense que bon, il y a le fait que bon, la plupart des pays de la CEDEAO ont connu une alternance au sommet de l'État, et ce qui n'est pas le cas du Togo. Et c'est la même famille qui règne, ça fait deuxième élément, et que bon, pour la CEDEAO, c'est inadmissible que bon, la même famille règne pendant 50 ans. Donc, on ne veut pas voir cette anormalité au sein de la CEDEAO. Je pense que c'est ce qui n'empêche pas que bon, les pays de la CEDEAO eux-mêmes fonctionnent un peu comme le Togo, c'est-à-dire on a une démocratie en trompe-l'œil. Et quand on prend la plupart des pays, c'est que la démocratie est, bon, on a le minima, à savoir qu'il y a alternance, et c'est ce minima qu'on cherche aussi pour le Togo. Maintenant, approfondir ce minima, à savoir que la démocratie fonctionne selon les institutions, etc. Certains pays réussissent, c'est vrai, mais il faut dire que dans l'ensemble, les pays de la CEDEAO, bon, et si on prend les critères de respect des droits de l'homme, les libertés publiques, hein, il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau, mais n'empêche que bon, le Togo constitue vraiment une anormalité dans la sous-région.
À voir alors si ce dialogue offre des garanties d'alternance. En tout cas, merci pour aujourd'hui, Commis tout d'abord, politologue au LAM de Sciences Po Bordeaux, spécialiste Togo et Ghana. Informations et vidéos sur la page et fil Twitter des Enjeux. Et puis, demain, on parle de cette tournée, il y a une semaine, de Rex Tillerson en Amérique du Sud, voir si c'est le retour de l'arrière-cour des États-Unis.